Petit F, l'accroissement des biens des entreprises. Ainsi donc, les entreprises ont tout le loisir d'accroître leurs biens sans être importunées. Les profits plantureux, les subventions, les gouvernements occidentaux, la législation, les institutions de recherche et d'éducation, le contrôle de la détérioration rapide des biens de consommation, tout concourt et court même à augmenter les biens et les revenus des compagnies. À part ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Petit F1. Au début, ça va. Au tout début d'un tel régime, cela fonctionne. Ça dérange peu de monde. C'est tout nouveau, tout beau.
L'exception
ne dérange pas la règle. Et puis, un système à petit profit, pour celui qui s'improvise chef d'entreprise, ne fait que déplacer un vieux problème de redevance pour les chefs terriens, les seigneuries et les gouverneurs auxquels on était habitués. Cela ne faisait pas de vagues. À travers le monde, le développement est fort lent et peu concentré. Il y a de la place pour plusieurs entreprises avant que cela commence à paraître ou à déranger. Peu important. Cela n'a pas grande importance et les gens se rendent peu compte du changement qui s'amorce. Les villes et les villages sont très distants au Canada. Et au début de l'ère de l'industrialisation, les communications étaient lentes et peu développées. On ne savait pas vraiment ce qui se passait ailleurs et personne ne se doutait de l'ampleur des changements que subissait la société. On imagine mal que quelques exceptions puissent devenir la règle. Peu nombreux. On regarde souvent le nombre d'exemples pour s'en faire une idée. Or, dans les premières années et même dans les premières décennies, les entreprises sont peu nombreuses et leurs biens sont minimes. On ne se sent pas menacé et on accepte bien ces nouveaux-nés. D'ailleurs, on se sent capable d'en adopter plusieurs avant de paniquer ou de protester. Peu d'effet. On doit dire également que tout ce processus a peu d'effets négatifs. Au contraire, on y voit beaucoup d'avantages. Et de toute façon, cela fait partie des activités marginales. On a peu de raisons de s'en plaindre. Petit F2. Mais avec le temps, ça prend tout. Mais bientôt, on se rend compte que la multiplicité des entreprises et leur multiplication balaient tout sur leur passage et ramassent tout ce qu'ils peuvent. Le but de leur existence, habituellement le premier paragraphe de leur charte, c'est de faire du profit et, plus tard, d'accroître leurs biens, de prendre de l'expansion. Tout est convoité, même les services gouvernementaux, comme la poste, les activités de service dans les hôpitaux. Tout ce qui est public est regardé de très près. Ils peuvent s'emparer de tout et tout contrôler pour en faire surgir du profit et manipuler la vie sociale et le bétail humain. Pour eux, les humains sont du règne animal. Ce sont leurs ressources premières. Dans certains pays, 85% des terres appartiennent à 15% des gens qui s'en servent pour engraisser des multinationales de l'alimentation des pays riches. Le problème dans ces accroissements, c'est qu'avec le temps, tout finit par appartenir aux compagnies et aux entreprises privées, de quelques personnes qui se permettent de donner des ordres au gouvernement. Ils existent pour drainer la sève humaine et son produit sucré. Petit G, développement des lois. Dans tout ce contexte, il est normal que les lois des soi-disant élus du peuple soient faites en fonction du bien-être des entreprises et un peu des gens, tout de même. On organise les lois et les règlements pour enlever le plus d'entraves possible au monde des affaires et à leur profitarisme. Si on taxe trop au goût des compagnies, on diminue. Si des substances nocives pour la santé humaine font faire du profit aux compagnies qui en vivent, on légifère pour le permettre. Si des substances sont problématiques sur une longue période, sans cependant en avoir la preuve à court terme, on le permet quand même, puisque cela augmente la productivité, le profit et l'apparence d'une saine économie d'aveugle. Dans le développement des lois, on retrouve une philosophie bien particulière. Ce n'est ni celle du service, ni celle du bien-être du peuple, ni celle de l'équité. mais celle de la prévalence du profitarisme et de la servitude de la vie humaine au bénéfice d'un système d'organisation polarisé sur la compétitivité des meilleurs et de la fabrication de la fortune de privilégiés par la productivité de biens d'usage général. On commence à peine à tenir compte de la nature et de l'environnement. Et encore, c'est parce qu'on y est obligé pour survivre. Les compagnies ont même commencé à obtenir des brevets dans le domaine génétique pour s'approprier des droits exclusifs de manipulation et d'usage de la vie végétale, animale et même humaine. Et les gouvernements marchent la tête baissée dans ce début du contrôle de la vie au service du bénéfice et de la servitude. Quelques scientifiques protestent pieusement. Mais on balaie la religion, la philosophie et les activités philanthropiques de l'éducation. Justement, ce qui explique la raison de vivre et ce qui donne une raison de vivre au-delà de la matérialité. C'est ce qui est en opposition avec une orientation exclusivement de profitarisme. C'est le veau d'or du temps de Moïse qui a vieilli et qui est devenu la vache sacrée, le sacro-saint profit. Petit h. Pour faire l'affaire de qui? Il est évident que les gouvernements et leurs lois sont à la solde du monde des finances. Temporairement, cela fait l'affaire des propriétaires des compagnies qui satisfont leur envie de domination et de contrôle d'abord et avant tout. Cela fait l'affaire aussi de leurs familles et de leurs descendants. Mais à la fin de leur vie, chacun de ces chefs remettent le tout dans les mains de Dieu, car ils n'en ont pas le choix, et se retrouvent là-haut vidés de tous leurs biens matériels. Par contre, du point de vue du monde physique, leurs richesses vont plutôt entre les mains de répercuteurs d'un système de dupes, de perversion, de malversation, d'esclavagisme, de dominateurs, d'oppresseurs et de contrôleurs, le monde du cornu par excellence, bien entendu. Ainsi donc, chacun est trompé dans ce système et le seul chef d'orchestre et manipulateur est un égrégore collectif appelé jadis le diable. Chacun croit duper les autres ou profiter des autres, tandis que chaque dupeur est lui-même dupé et rendu esclave d'un plus rusé que lui, d'un système d'apparat. 10L, la soi-disant justice. Comment peut-on oser parler de justice dans une telle société? De nos jours, les bandits volent même les mots pour les utiliser comme paravent et pour mieux tromper les gens. Quand on a le haut du pavé, on peut inventer toutes sortes de scénarios. Alors, pourquoi ne pas inventer un système judiciaire avec des dents pour obtenir l'obéissance des otages et donner, avec le temps, l'illusion de la justice? Remarquez qu'avec une baïonnette dans le dos, on apprend vite à accepter ces subterfuges et à fermer les yeux, à faire les autruches, quoi.